Chapitre 3. Gilbert avait gagné un peu de fièvre à cette promenade sous la pluie. Il rentra grelottant et l'état de ses vêtements fit pousser les hauts cris à Jeanne Yvonne, la jolie petite bonne en coiffe blanche qui vint lui ouvrir. « Ah, madame !» s'écria-t-elle en grimpant l'escalier 4 à 4. « Monsieur Gilbert est, bien sûr, tombé dans le mortier. » C'est ainsi que les Bretons appellent la boue liquide de leur chemin. « Comme te voilà fait !» dit Madame Aubray en sortant sur le palier. « Va vite te changer, il y a de quoi gagner la mort. »« Dépêche-toi, » ajouta-t-elle, « le dîner est prêt. » La salle à manger, assez obscure, était au rez-de-chaussée. De vieilles boiseries gris de perles, égayées d'un filet rose, cachaient les murs jusqu'au plafond élevé. Ces boiseries, témoins du siècle précédent, avaient été conservées là seulement par économie. Madame Aubray eût préféré un papier brun à fleurs d'or, soutenu par une imitation de bois de chêne, mais par raison, on s'était contenté, en s'installant, de lessiver les murs et de faire des raccords au point où la peinture manquait. La maîtresse de la maison s'excusait de sa salle à manger. « C'est gothique, » disait-elle. Mais le reste de la maison était parfaitement conforme au mauvais goût moderne. Le salon au premier étage, le logis étroit n'avait qu'une pièce en façade, était tendu d'un papier blanc et or sur lequel apparaissaient quelques gravures, un tableau religieux brodé en perles et un portrait d'homme à l'huile. Le meuble était de reps gros bleu, les rideaux en mousseline brodée avec des embrasses au crochet s'attachant à des patères de cuivre. Devant la cheminée, garnie d'une pendule en pire et de deux lampes, s'étendait un tapis de feutre aux nuances criardes. Un stéréoscope avec des vues de Suisse et un album de photographies ne quittait jamais la table ronde, couverte en marbre gris, que son poids prodigieux rendait immuable. La chambre de monsieur et de madame Aubray s'ouvrait de l'autre côté du palier et donnait sur un petit jardin. Gilbert avait pris au-dessus du salon la chambre des enfants qui étaient descendus chez leur mère. La rue de l'Horloge, où est située cette maison, n'a de remarquable que cette tour du XVe siècle où s'arrondit un double cadran et dont la grosse cloche, qui eut pour marraine Anne de Bretagne, sonne l'heure d'un son grave et retentissant, et aussi quelques masures anciennes qui projettent leur premier étage, soutenu par des piliers jusqu'au bord du trottoir. Le jeune marin, qui, par une habitude de son métier, sortait souvent sur le balcon pour interroger l'horizon, était oppressé par l'étroitesse de la rue. La maison d'en face lui renfonçait les yeux. Pour ne pas chagriner sa sœur, il dissimulait ses impressions, mais il n'était pas plutôt entré dans cet intérieur gris et calme qu'un besoin irrésistible d'air et d'espace s'emparait de lui. Il s'agitait, ouvrait les fenêtres, suivi de l'œil par sa sœur, occupée à quelques broderies, et qui se disait « c'est la fièvre ». Son esprit était dans ce milieu, aussi mal à l'aise que son corps. La solitude, les dangers, ses perpétuels voyages l'avaient grandi. Les lectures nombreuses, qu'imposait la durée interminable des traversées, avaient amplifié son intelligence et développé le côté rêveur de son caractère. Peu mêlé aux hommes, il se faisait d'eux une idée assez différente de la réalité. Il ne leur prêtait que des pensées généreuses, nobles, héroïques même. Les Bretons surtout, les fils de ces corsaires qui stupéfièrent leur époque par des faits invraisemblables, lui paraissaient devoir être dévorés du désir de s'élever par quelque acte brillant au-dessus du niveau ordinaire. La parfaite quiétude dans la nullité qui se révélait autour de lui renforçait sa tristesse et sa sauvagerie. Au milieu de sa propre famille, il se faisait l'effet d'un goéland captif dans un poulailler. Sa sœur, Sylvie Aubray, avait la figure plate, avec d'assez jolis yeux. Elle se coiffait mal et s'habillait de lainage sombre, égayée de quelques cravates brillantes. Elle gourmandait ses filles ou sa bonne, s'occupait du ménage et s'inquiétait des offices et des petits cancans de la ville. Hors de là, elle ne supposait, n'ambitionnait rien. Son mari était inspecteur des contributions indirectes, ce qu'on appelle en province un rat de cave. Il allait dans les débits de boissons, les cafés, les hôtels et comptait les tonneaux pleins et les bouteilles. Il parlait beaucoup des tours qu'on tâchait de lui jouer, des doléances des débitants et de son habileté à échapper à leur ruse. C'était un grand homme sec, avec une voix de basse taille, qui lisait la patrie après son dîner et s'endormait dessus lorsqu'il n'allait pas au cercle, place du Guesclin. Ce soir-là, qui était la veille des rameaux, il vint quelques dames chez les Aubray, la belle-sœur de Sylvie, Madame Paul Aubray, dont le mari était médecin et qui habitait à quelques maisons de là, Madame Rochereuil, la femme du maire, et sa fille Marguerite, une grande blonde, maigre, au teint voilé de taches de rousseur, et une vieille fille, Mademoiselle Taffatz, qui avait été maîtresse de pension. On apporta la cave à liqueur et des langues de chat. Une des lampes de la cheminée fut allumée. Les petites filles vinrent embrasser tout le monde à la ronde et allèrent se coucher, en portant chacune une langue de chat, et les bavardages, avec l'accent traînant du pays, s'en mêlèrent. Gilbert, assis dans un coin, les regards rivés au parquet, n'entendait qu'un bourdonnement qui l'isolait. Il se plongeait dans son nouveau rêve, revoyait une seconde ses deux larges prunelles, d'un azur si clair, qui aussitôt s'éteignaient comme des étoiles sous le brouillard. Il pensait à la main nerveuse qui avait serré la sienne, et cette faveur, qui ne s'expliquait pas, lui donnait une sorte de confiance dans l'avenir, du sentiment qui grandissait en lui. Une pensée égoïste le fit s'arracher à sa méditation. « Toutes ces bavardes, se dit-il, peuvent, sans se douter de rien, parler d'elle et me renseigner sur son compte. » Il prêta l'oreille pour voir où en était la conversation et par quelle manœuvre il pourrait en saisir le gouvernail et l'amener dans ses eaux. « Certes, il a beaucoup d'onction, disait Madame Rochereuil, mais il n'a pas la fougue du révérend père qui a prêché le dernier carême. » « Vous trouvez, dit Sylvie, moi, il me plaît beaucoup, il a une voix touchante. Il pleure, il ne tonne pas. » « Il a de bien jolies mains blanches, dit Marguerite Rochereuil. Il les laisse pendre comme cela sur le velours rouge. » Le père Saint-Ange le frappait, lui, d'un poing furieux. « Et il en sortait de la poussière, dit Mademoiselle Taffatz, qui tenait pour le père Étienne. « Je trouve qu'il s'écoute trop parler, insinua Madame Paul Aubray, qui n'était pas très dévote. Ses serments n'en finissent pas. » « Oh, ils sont toujours trop longs pour toi, » dit Sylvie. « Que veux-tu, ça m'endort. »« Moi, ça me passionne, » dit la mairesse. « J'écoute de toutes mes oreilles, je bois les paroles du prédicateur et en rentrant chez moi, j'écris tout ce que j'ai pu retenir. »« Vraiment, vous ne nous aviez jamais dit cela. C'est une idée bien édifiante. » « Je retiens l'ensemble, mais quant aux mots, » dit Sylvie, « Bernique. » « Vous devriez nous montrer cela, nous permettre de le copier. »« Volontiers, » dit Madame Rochereuil, « un de ces jours. »« Tirez-les de là !» grommelait Gilbert. Cependant, on parla des grands manoirs qui, pour Pâques, avaient offert à l'église une nappe d'autel qu'on disait très belle. « Y a-t-il beaucoup de familles nobles dans les châteaux des environs ?» demanda alors le marin. On lui cita les d'Argentier, au château du Motet, à Pontcadeux, les Roger de Linck, d'autres qui habitaient constamment leur domaine ou ne venaient que pendant l'été. Le château de la Coninée est désert. Et il eut un battement de cœur lorsqu'on lui nomma Mademoiselle de Kerdréol. C'est tout comme s'il n'y avait personne. Il y eut un silence. Vous touchez à une des questions qui intriguent le plus la ville, dit enfin Virginie Taffatz. « On n'a jamais rien vu de pareil, » continua la mairesse, « une jeune fille qui, depuis son enfance, vit toute seule comme une pestiférée. »« Mystère, » soupira Sylvie. « S'il n'y avait pas là une jeune fille, je dirais bien mon idée, » grommela de sa voix profonde M. Aubray, qui faisait un écarté avec Mademoiselle Taffatz. « Marguerite, va donc voir si les enfants dorment. » La grande fille s'esquiva. « Dites !»« Eh bien, le baron de Kerdréol a sans doute des raisons pour ne pas se croire le père de sa fille. La baronne aura fait quelques frasques et il fait expier à l'enfant les fautes de sa mère. Voilà !»« Ça n'est pas chrétien !» Le fait est qu'il la déteste. Jamais il ne lui a parlé. Lorsqu'il vient, ce qui est rare, il la consigne dans sa chambre pour ne pas risquer de la rencontrer. En voilà une existence, s'écria la femme du docteur. Et s'il se trompe, si l'enfant est bien à lui? Est-ce fini, maman? Dit Marguerite en passant sa tête par la porte entrouverte. Allons, reviens. L'avez-vous vue quelquefois? Demanda Gilbert. Comment est-elle? Ma foi, elle a l'air d'une folle, dit madame Rochereuil. La trouvez-vous jolie, mesdames? Moi pas, elle vous a un regard effronté qui ne se baisserait pas devant celui du pape. C'est plutôt un garçon qu'une fille. Elle a l'air anglais. La conversation dévia sur ce mot. On parla des Anglais qui envahissaient la ville, de leurs modes extravagantes, de leurs airs insolents, des façons de leurs demoiselles qui avaient l'air de gourgandines. Mais Marguerite la ramena à son premier sujet en demandant si les Kerdréol étaient parents de Bertrand du Guesclin. « Qu'est-ce que tu chantes ?»« C'est qu'à l'église, elle se met souvent près du monument qui contient le cœur de du Guesclin et le regarde comme si elle voulait voir à travers les pierres. » « Elle va à l'église, dit Gilbert. De temps en temps, et elle y a une tenue peu édifiante. Elle n'est pas dévote ?»« Non, et c'est tant pis pour elle, répondit aigrement mademoiselle Taffatz. La dévotion adoucirait ses peines et lui donnerait le courage de les supporter. » Le lendemain, Gilbert étonna sa famille en annonçant qu'il l'accompagnait à la grand-messe. « La grâce t'aurait-elle touché ?» demanda Sylvie. « Cela me distraira, » dit Gilbert. On se mit en marche en grande tenue, M. Aubray portant les parapluies, Sylvie finissant de mettre ses gants, Gilbert tenant par la main la plus petite de ses nièces. Les cloches sonnaient à toute volée, les citadins endimanchés se dirigeaient tous du même côté. On enfila la rue des Morts, qui débouche sur la place Saint-Sauveur, en face de l'église. Les pavés inégaux du carrois, comme on appelle aussi cette grande place carrée entourée de maisons, qui gardent encore le dessin du Moyen-Âge, bruissaient sous le piétinement sourd des arrivants. Les trois arcades à plein cintre du portail faisaient des trous noirs dans lesquels, par groupe, la foule disparaissait. Sur les marches, des mendiants étaient assis à côté de grands tas de verdure. Les orgues grondaient lorsque la famille Aubray laissa retomber derrière elle la porte battante. Gilbert fut enveloppé tout à coup par la splendeur de ses sons puissants. La pénombre mystérieuse faite par les vitraux, le vague parfum d'encens, l'impressionnèrent. Il eut un frisson qui lui mouilla les yeux, impression toute poétique d'ailleurs, qui fut vite effacée par la voix nasillarde des chantres, l'air distrait des diacres et la mine rubiconte de l'officiant. Il se promena dans les bas-côtés où les coiffes éblouissantes des femmes du peuple se penchaient dévotement sur des paroissiens usés. Il admira l'expression de foi naïve qu'avaient quelques-unes, les plus vieilles, et sourit du chuchotement des plus jeunes qu'ils regardaient en se poussant du coude leurs livres sur les lèvres. L'abbé Jouan passa un surplis blanc, l'air affairé. Le galon d'or de la casquette du marin attira son regard, qui se baissa aussitôt pour voiler sa surprise. Gilbert se sentit embarrassé. Il ne savait quelle contenance tenir au milieu de tous ces gens qu'il examinait, tout en répondant avec sûreté aux formules de la messe. Quelquefois, un glapissement mal contenu, écorchant une phrase latine, lui faisait monter à la gorge un rire qu'il avait peine à contenir. Son pas sonnait sur les dalles, il était le seul debout, ce qui attirait l'attention, et il cherchait à se composer un maintien neutre qui ne blessât pas le cérémonial. L'espoir qu'Isoline viendrait peut-être lui rendait ce lieu attrayant, et il ne voulait pas le quitter. Le désir qu'il avait de la revoir l'étonnait par sa violence. Était-ce donc possible que le vide de son âme fût comblé ainsi tout à coup? Un être qu'il ne connaissait pas la veille à la même heure s'était emparé souverainement de sa pensée comme le jour envahit la nuit. Il était heureux de se sentir vivre, l'ennui de plomb qui pesait sur lui ne l'écrasait plus, aussi il activait de tout son pouvoir le commencement d'incendie. Il chercha la pierre sous laquelle est caché le cœur du bon chevalier et, l'ayant trouvé dans une chapelle latérale, il s'assit auprès et se mit à lire machinalement l'inscription gravée en lettres gothiques. Sigy, le cœur de Messire Bertrand Duguesclin, son vivant connétable de France. Mais il n'allait pas plus loin, son regard s'échappait, cherchant toujours celle qui ne venait pas. À la fin, il s'impatienta et, au grand scandale des fidèles, sortit au moment où l'on donnait le pain béni. La place, complètement déserte maintenant, était inondée de soleil. En face, au-delà des maisons, se découpait sur le ciel rasséréné la silhouette pittoresque de la tour de l'horloge avec son haut clocher pointu. Gilbert, ne sachant trop de quel côté il voulait aller, s'arrêta un moment sous le porche où le doigt du temps efface de plus en plus les quatre évangélistes sculptés en bas-relief avec leurs bêtes symboliques et les bizarres fantaisies inscrites dans la pierre par des artistes inconnus. Il prit pourtant, tournant le dos à la tour de l'horloge, la petite rue des Chauffe-Pieds qui longe le flanc droit de l'église et, comme malgré lui, leva la tête en passant, attardant son regard dans les délicieuses déchiquetures du chevet, au milieu desquelles surgit le fin clocher, pareil à un lys renversé. La place de la Duchesse Anne, qui s'étend derrière l'église, est le point de la ville dont les Dinanais sont le plus fiers. C'est un jardin anglais, assez médiocre cependant, qui remplace le vieux cimetière abandonné, mais qui aboutit à un des plus beaux panoramas que l'on puisse voir. L'esplanade qui termine ce jardin est le sommet d'un ancien donjon. Coupée de grosses tours rondes et bordée d'un parapet de pierre qu'entaillent les meurtrières, elle est élevée d'au moins 40 mètres au-dessus du niveau de la Rance. De là, le regard plonge dans la vallée avec une sorte d'ivresse. Tout en bas, la rivière, comme un ruban d'acier, puis des toits d'ardoises désordonnés qui luisent au soleil. Plus près, le haut viaduc que l'on domine encore franchit en quelques enjambées l'espace qui sépare le faîte des collines. Partout, sur les pentes, les bois épais commencent à verdir. Des bourgs, des villages, des creux pleins d'ombres bleuâtres et à perte de vue, des vallons, des prairies, des écroulements de frondaisons rousses. Gilbert ne s'arrêta pas devant ce tableau qui lui était familier. Il se mit à descendre rapidement le chemin abrupt, qui, tantôt rampe rapide, tantôt escalier taillé dans le roc, descend, avec main zigzag, de l'esplanade au bord de la Rance. « Fou que je suis !» se disait-il en se hâtant, « pendant que je fais le cafard et que j'avale des sermons, celle que je cherche est là-bas, dans la cabane de Marie d'Amont. »